installer toutes sortes de sociétés étrangères qui ont un savoir-faire développé dans leur propre pays, France, Allemagne, États-Unis, etc., et qu'elles vendent des services aux Russes. Et les Russes, pendant longtemps, n'ont pas eu confiance, n'ont pas confiance dans leur propre, dans ce qu'ils produisent eux-mêmes, achètent parce que ça a une meilleure image, et progressivement, dans beaucoup de domaines, justement, la Russie laisse passer la possibilité d'établir ses propres services. Ça fait, je disais tout à l'heure à ma collègue, que je pousse pour la mise en place d'un projet d'e-business sur 5 à 6 ans pour arriver justement à faire en sorte que en Russie, les gens, bien sûr, pratiquent déjà les business, mais ils achètent à l'étranger, ils se font livrer par TNT, ils payent par PayPal. Enfin, bref, tout ça échappe complètement à l'économie russe, alors qu'on pourrait réorganiser tout ça, mais ça nécessite beaucoup de choses dans le domaine juridique, justement.
Bon, là, vous répondez à l'aboutissement de ma question, c'est de savoir si, s'il y a des rapports marchands entre écrans et qui s'amplifient entre l'extérieur, les autres continents, les autres espaces. Et la Russie. Voilà. Donc vous êtes complètement intégré dans l'échiquier mondial au niveau.
Oui.
Alors, la deuxième petite question, elle est de savoir, est-ce que, peut-être vous le savez, je pense que vous le savez.
J'achète aux États-Unis un ordinateur que je paye avec ma carte bleue sur une banque étrangère qui m'est livrée par DHL. Vous comprenez? Quelle que soit la place. En France, quand vous achetez en quelque chose, en général, vous l'achetez à un magasin français. Et ici, qui est un distributeur français, vous payez avec une carte bleue sur une banque française et vous serez livré par Chronopost. Avec retard, mais vous serez peut-être livré. Mais ça, vous comprenez, c'est ce qui arrive.
Deuxième petite question. Est-ce qu'on peut, comme en France, fonder une, faire les formalités, parce que je pense que vous avez aussi, et nous on est un État qu'on désigne comme avec peut-être un peu de discrimination, qu'on désigne comme fait de beaucoup de bureaucratie. Est-ce que bon, vous êtes peut-être aussi logé à la même enseigne dans votre grand pays. Est-ce que on peut procéder aux formalités de justice et d'administration publique, est-ce qu'on peut payer ses impôts par voie électronique? Est-ce qu'on peut présenter une assignation ou un en justice par voie électronique?
Pas encore. Tout comme dans ce domaine-là, ça commence justement. Il y a deux choses. Il y a deux plans qui viennent de sortir. Il y a un plan qui est sorti en 2008 dont je voulais vous parler un petit peu, qui était le plan d'informatisation de la société de l'information, pardon, 2011-2020. Et il y a un deuxième plan qui vient juste de sortir en avril, qui a été lancé, qui s'appelle le plan Открытое общество, la société ouverte, qui travaille justement sur la transparence, qui travaille également sur les possibilités pour le citoyen de s'adresser directement à différentes administrations, notamment à l'administration de la justice, pour dénoncer une erreur, dénoncer un mauvais comportement de l'administration, pour exiger le respect d'un délai. Enfin, oui, ça se met en place, ça commence, ça se met en place. On rattrape en très peu d'années beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Merci. Est-ce qu'il sera possible d'avoir votre exposé écrit pour
Il sera complété et il sera publié, oui.
Merci beaucoup. D'autres questions ? Madame.
Thank you. Agnès Revol, I have a question for Mr. Kang. When you talked about cooperation with business, is it cooperation both with Korean business and outside business, or above all cooperation with Korean business when you do some I try to take the word. You talked about global cooperation.
Mm-hmm. Thank you for question. It's easy question. Thank you. Of course, it is global cooperation. But some areas, like security-related one, e-security, e-identification, e-authorization, maybe in that area, it's going to be limited. But basically, of course, it's global cooperation. Thank you.
Merci. Madame? Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est en un mot.
Oui, André Stedel, Capgemini. To Mr. Kang, I understood that you give an interface for developers. Does it mean that you are looking for... Let's say a kind of crowdsourcing to interact, to give citizens or developers the possibility to interact with your open data. Yeah. And can you give us an example?
Okay. Cooperation. In this case, a little bit different one. Okay. Example. 2 years ago, one high school student in Seoul, the capital city of Seoul, he developed some kind of bus information system, which number of bus are where. And if I want to go to, let's say, Eiffel Tower from here, I put an Eiffel Tower, and this app provide which number of bus, and that number of bus, where the bus is now, and how much time to get here. So that kind of app, 2 years ago, a high school student, he developed basically. But the problem was the authority, city, the bus operating company is done by public Seoul Metropolitan City. They accumulate those data. So they cannot open to the high school student or a general citizen. So he asked to provide that the specific number, the data. And basically, it was a little bit kind of restricted because of the law. And actually, the Seoul Metropolitan City asked to us to change the law. Actually, we changed the law. And last, it took some, you know, several months to change the law. So that is maybe one example how the government or public sector opened the data for the public, for the high school student or the elementary student or kind of very big engineer or whatever, if they want to see or want to provide those data from the public sector, maybe he or she can make some progress. Or actually, the high school student now actually he entered some very good university in Korea. But the app is one of the best app actually among, there are several, you know, it's bus information system, bus information apps, but that one is the best until now. So maybe that is kind of one example how the government or the public sector cooperate with the individual person. And maybe example of the open data also. So we, the MOPAS, we asked to each, all of the ministries and the local governments to access the data from the outside, you know, general public body, individual, or the private company also. But of course, there are several restrictions, not only in Korea, but France or every country, security, privacy, those kind of issues. But basic direction, let's open the data and how see the, what's the result. Maybe that is one example. Thank you.
Merci.
Sur la question de open data, c'est quelque chose qui actuellement est absolument moderne pour nous, pays évolués, parlons simplement. Cette question de open data, elle passe au-dessus de la tête de la majorité des pays qui sont en train de mettre en place leur administration numérique sur la base d'une administration, la réforme administrative. Il faut bien comprendre que la première question qu'ils ont en tête, c'est la question du service public. Si vous nous prenez des Allemands ou des Français, nous avons 200 ans derrière nous de service public, 200 ans de droit administratif qui a évolué progressivement. Quand on a mis en place nos services publics sous forme électronique, ce n'était qu'une nouvelle technologie de quelque chose qui correspond à ce que l'on pratique. Au lieu d'aller dans les cabinets, dans les bureaux, pardon, simplement on l'a en ligne. Mais il faut comprendre, pour des pays où la notion de service public n'a pas existé, n'a jamais existé, ou bien a existé très différemment, il y a deux choses qui se passent en même temps. La réorganisation de la société pour créer le service public, et en même temps l'acceptation par l'administration qu'elle doit quelque chose à ses citoyens, qu'elle doit servir le public. Et enfin, que le public aille au devant, parce qu'on peut lui en parler beaucoup. S'il n'est pas au fait, s'il ne comprend pas à quoi ça va servir, il n'ira pas. Donc il y a un problème de compréhension du service public, d'organisation du service public, vous voyez, électronique c'est secondaire, et de confiance. C'est là que se trouve tout. Et le problème du passage à l'administration numérique et du service numérique, c'est la question de confiance. Chez nous, on met l'accent uniquement sur la sécurité, la partie sécurité de la confiance. Est-ce que mes données à moi ne vont pas être perdues, ne vont pas être vendues, par exemple? Là-bas, c'est est-ce que je peux commencer à travailler, faire confiance à ma propre administration? Est-ce que ça va marcher mieux ou est-ce que ça va marcher? Vous voyez, c'est vraiment des questions de lunettes extrêmement différentes. C'est pour ça que je dis qu'il y a autant de cultures différentes, autant de services, comment dirais-je, de gouvernements électroniques différents. Les gouvernements électroniques sont les héritiers des systèmes administratifs. Ils répètent leurs erreurs ou ils essayent de les effacer.
Merci, c'était effectivement intéressant. Dernière question, qui désire... Oui, monsieur.
L'interopérabilité, dans quelle mesure, quelle est la part de convergence, enfin d'évolution des systèmes nationaux de façon à ce que faciliter l'interopérabilité ou est la part finalement des solutions techniques et informatiques qui sont trouvées pour l'assurer?
Merci. En fait, sur les questions d'interopérabilité en Europe, le principe a été de dire qu'il ne faut pas modifier. Le premier principe, c'est on part des services publics électroniques existants et on rajoute une couche supplémentaire pour les rendre interopérables. Ça, c'est la base. Mais ça ne suffit pas parce que ça coûte cher. Et donc, le deuxième temps, celui que j'essaye d'expliquer au gouvernement français, c'est de dire il ne faut pas que les contribuables nous payons trois fois. Une fois pour développer les services, une fois pour donner de l'argent à Bruxelles pour faire la couche d'interopérabilité et une troisième fois pour rendre compatibles les systèmes français avec le système développé à Bruxelles. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'éviter de payer trois fois en faisant cette convergence. Et je suis heureux de constater qu'après peut-être 3 ou 4 ans de discussion, les services du Premier ministre viennent de déposer le premier dossier européen au nom de la DISIC, donc du Premier ministre. Ça ne s'est jamais fait, on commence à le faire.
À propos d'interopérabilité, bien sûr, il y a exactement l'aspect technique dont vous parlez, qui est extrêmement important pour nous. C'est notre point de vue technique qui prime actuellement. Mais pensez maintenant, revu du côté des citoyens et vu dans un pays où l'administration a toujours été très très lourde, comme justement je reprends l'exemple de la Russie. L'interopérabilité, c'est le fait que deux administrations puissent se parler. Très bien, ça on a compris. Que des machines différentes puissent se parler. Ça, c'est l'aspect technique. Mais derrière, il y a le fait que les administrations puissent partager des informations. Ça, on l'a compris. Mais derrière, du point de vue du citoyen, il y a le fait qu'on ne vous redemande pas 10 fois la même information qui a déjà été donnée. Et ça, ça vient de passer en Russie tout justement. Le fait qu'il y a une loi qui vient de passer en octobre dernier qui prévoit qu'on ne pourra plus exiger la énième fois que tu produises un papier prouvant telle ou telle chose, si cette information existe déjà dans une des bases de données quelque part dans la fédération. Donc les liaisons techniques qui se passent entre ces machines, résoudre ces problèmes techniques, c'est en même temps faire acquérir des nouveaux droits. Et le citoyen s'en fiche de savoir du XML, XBLR, etc. On a tous travaillé avec ce genre de choses. Lui veut savoir que mon enfant, il était inscrit dans cette école l'année dernière, il est toujours vivant et je le réinscris cette année. Pourquoi on me demande encore un acte de naissance, par exemple? C'est tout simple. Hein. C'est ça l'interopérabilité vue du côté du citoyen. Et de ce point de vue-là, la Russie a fait un énorme pas juste récemment en assumant le fait qu'on ne peut plus demander, à un citoyen une information qui existe déjà dans le système. Et pour ça, elle a construit un grand système et pour ça, elle a modifié ses lois. Parce que beaucoup de lois demandent des papier. Et vous ne pouvez pas, même techniquement, modifier les processus administratifs tant que vous n'avez pas modifié la loi. Si la loi prévoit un papier estampillé, vous pouvez avoir une solution technique qui marche. Tant qu'on n'a pas changé la loi, votre acte sera invalide. C'est là que sont liées trois choses. La réforme administrative, l'administration numérique et le rapport avec le citoyen.
Merci. Il me semble que c'est une excellente conclusion pour notre table ronde. Je vais rendre la parole à William Gilles, qui va nous expliquer la suite des événements. Je crois qu'on peut applaudir nos orateurs.